Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actu tech, internet et gadgets. Je suis Patrick Béja, c'est l'épisode numéro 395. Bon sang, on s'approche du numéro 400 et on est en mars 2021. Aujourd'hui, l'émission vous est présentée par les formidables patriotes que sont Brice Schwartz, Migo 2, Marc Michel, Michael Stenzel, Marcia Spira, Fix 007 et pas un de plus. Et en plus de ça, nous avons Shulrak qui est le producteur de l'épisode. Merci à vous tous de permettre à tous les auditeurs, qu'ils soient des soutiens sur Patreon ou non, de profiter de notre émission dans laquelle on va essayer de vous parler encore un petit peu des NFT parce que décidément, il ne se passe pas une journée sans qu'il se passe quelque chose d'incroyable avec les NFT. On a aussi plein de petites informations dont je vais vous laisser la surprise. Et pour m'aider à couvrir tous ces sujets passionnants, on a d'une part Marion. Comment vas-tu, Marion? Est-ce que tu es en forme?
Hello, hello. Bah oui, toujours en forme et ravie, comme d'habitude, de retrouver et de retrouver Jeff aussi. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu la chance de le faire tous ensemble.
Mais oui, c'est vrai. Ça fait au moins, je ne sais pas, 3 mois, 4 mois. Comment ça va, Jeff? Tu es en forme depuis la Silicon Valley?
Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est un grand plaisir de vous retrouver. Je ne sais pas trop pourquoi je n'étais pas là depuis 3 ou 4 mois. Je pense que c'était des problèmes de calendrier, mais... on est toujours en lockdown au fond de la Silicon Valley. Ça fait un an, quasiment jour pour jour, le 11 mars 2020, que j'ai commencé de rester à la maison pour travailler.
Ouais, pareil.
Et en fait, c'est super génial. Et c'est un grand plaisir de vous retrouver tous.
Eh bien, écoute, c'est d'autant plus intéressant qu'on a plein de sujets très, très cool à couvrir, et notamment le sujet des NFT qui continuent à défrayer la chronique, comme je le disais. C'est marrant parce que j'ai commencé à en parler il y a 2 ou 3 épisodes, quelque chose comme ça, dans l'émission, et c'est toujours un petit peu délicat de jauger à quel moment c'est bien de commencer à parler d'un sujet comme ça qui est à la marge des sujets technologiques. Parce que ça faisait, je dirais, 2 ou 3 semaines avant ça, j'avais commencé à m'intéresser aux NFT, mais je me disais, bon, c'est pas encore tout à fait le moment, il y a plein de sujets comme ça, un petit peu obscurs, qu'on pourrait évoquer ou pas. Et là, je me rends compte que j'étais vraiment au bon moment, parce que juste après que j'en ai parlé, ça a commencé à déferler à peu près partout, et je pense que tout le monde a entendu parler des NFT. Et donc, si vous ne savez
pas... Dans le rendez-vous tech.
Dans le rendez-vous tech, évidemment. Et si vous ne savez pas ce que c'est, on ne va pas réexpliquer. J'ai fait un long segment dans l'épisode numéro 393, que vous pouvez aller réécouter, pour expliquer ce que c'est que les NFT. Mais en gros, je schématise, c'est un moyen d'utiliser la blockchain pour assigner la propriété d'un objet, notamment d'un objet numérique, unique, à quelqu'un. Quand on parle d'un objet numérique unique, on parle de fungible, donc les fongibles, non fongibles, c'est-à-dire qu'il n'est pas remplaçable. Un euro est exactement identique à un autre euro. Par contre, un tableau n'est pas exactement identique à un autre tableau. On peut avoir plusieurs éditions d'une carte à collectionner, mais chacune peut être potentiellement unique. Eh bien, les NFT, c'est un moyen d'assigner la propriété de ces choses à quelqu'un. Et alors, ça peut servir à plein d'autres choses, mais c'est un moyen technique. Et ensuite, on peut définir ce que ça veut dire assigner la propriété. Parce que quand on parle d'objets numériques en particulier, assigner la propriété, les contours de la signification de la chose, de la définition de la chose sont un peu flous. Comme le montre, par exemple, ce qui s'est passé avec l'artiste Mike Winkelmann, qui est plus connu par son nom d'artiste de Beeple, qui a vendu une de ses œuvres, tenez-vous bien, 69 millions de dollars. Alors, vous me dites, bon, 69 millions, OK, des œuvres, on en vend tous les jours, beaucoup plus cher, ou presque. Sauf que là, en fait, l'œuvre en question, c'est un collage numérique, c'est-à-dire que c'est un JPEG, en gros, une image qui appartient désormais, alors on sait plus ou moins de qui il s'agit, et il n'est pas impossible que cette personne veuille, on plonge dans les méandres de la technologie, mais veuille le découper en parts, mais pas en parts, genre il ne va pas découper un JPEG avec des ciseaux, hein, mais vendre des parts comme des parts d'une société. Mais bon, peu importe, au-delà de ça, la personne a payé 69 millions de dollars pour la propriété d'une image numérique. Et en plus de ça, c'est la troisième vente la plus chère du vivant d'un artiste, de l'histoire du vivant d'un artiste. Et c'est assez incroyable parce que c'est un truc qui n'existait quasiment pas il y a quelques mois, ces NFT. Aujourd'hui, ça sert à vendre de l'unicité à des gens qui pourraient avoir exactement la même chose très facilement. Ce collage d'œuvres d'art, qui est en fait une collection de toutes les photos qu'il a prises ou les illustrations qu'il a prises depuis presque une dizaine d'années, peut-être même un peu plus. Et il le fait tous les jours, en fait. Et c'est un collage de toutes ces œuvres. Bon, c'est une œuvre d'art comme une autre, sauf que vous pouvez aller sur Internet et chercher la chose et la voir aussi. Du coup, il y a quelque chose, il y a une grande déconnexion entre l'idée qu'on paye pour un truc qui est complètement éthéré, qui est juste un objet numérique qui peut être reproduit à très grande échelle, et en même temps, le fait que, on se dit, finalement, on peut avoir une copie de la Joconde chez nous, si on veut, et bon courage, si vous payez quelques centaines d'euros, je suis sûr que vous pourriez avoir un truc que le commun des mortels n'aurait aucun moyen de distinguer de l'original, par exemple. Donc, et on paye pour aller voir l'original, etc., etc. Ça s'étend au-delà de ça, même. Il y a des artistes de DC qui ont commencé à essayer de vendre de leurs illustrations, et DC Comics a dû leur dire « Soyez gentils, ne vendez rien qui inclut des personnages de DC », ce qui est normal, hein, c'est une propriété de DC, ce genre de choses. Donc Wonder Woman, Superman, Batman, tout ça, même si des artistes ont fait des illustrations avec ces personnages, DC a dit « On est en train de regarder les NFT, on est en train de voir comment ça pourrait fonctionner pour que tout le monde fasse les choses proprement, mais en attendant, vous travaillez pour nous, si vous avez fait des illustrations de nos personnages, souvenez-vous que ces personnages-là, ils nous appartiennent, donc vous ne pouvez pas vendre de NFT avec nos personnages. » Alors c'est un détail, mais c'est intéressant de voir que ça commence déjà très très rapidement. Après quelques semaines où ça a explosé dans l'imaginaire collectif, ça commence à atteindre le grand public très très vite. Il y a aussi des problèmes différents avec du vol de propriété intellectuelle. Ça va de des gens qui ont attribué des NFT à des choses existantes, comme des œuvres virtuelles qui ont été vendues en NFT, mais qui ne sont pas vraiment vendues. Enfin, c'est juste une attribution de quoi ? On ne sait pas, de quelque chose, d'un tweet. Je vous parlais la semaine dernière du premier tweet de Jack Dorsey qui a été vendu en NFT. Là, il y a des tweets qui sont tokenisés par un système qui s'appelle Tokenized Tweets. Et n'importe qui peut tokeniser le tweet de n'importe qui. Et donc, certains se sont mis à tokeniser les tweets d'autres personnes et d'artistes. Et les gens en question ont répondu à ceux qui tokenisaient les choses en disant « Mais attends une seconde, j'ai pas donné mon accord pour que ça soit tokenisé ce truc, qu'est-ce que tu fais ?» Et ça a toute une cascade de conséquences sur ce qu'il est possible de vendre. Il y a des gens, par exemple, il y a un réseau social qui s'appelle BitClout qui a commencé à créer des Creator Coins, c'est-à-dire des NFT qui représentent les 15 000 plus gros influenceurs de Twitter, mais sans leur permission. Alors, le site est maintenant offline, mais c'est des sortes de cartes à collectionner faites à partir des personnes existantes et sans leur accord. Alors ça, évidemment, c'est une question de droit. On va voir tout ça, ça va devoir se décanter. Mais ça me fait penser à un autre site qui s'appelle Earth2, qui est en train de mettre en vente des parcelles d'une copie de la Terre, virtuelle évidemment, mais des parcelles de 10 mètres par 10 mètres. Et on peut acheter n'importe quelle parcelle pour une somme qui dépend de, des enchères que les gens attribuent. Mais on peut acheter, genre, vous pouvez aller sur earth2.io et acheter votre parcelle de votre maison pour une somme X. Évidemment, les parties les plus connues de la planète sont déjà parties à des sommes assez folles, déjà. Et on se dit, mais on achète quoi ? On n'achète rien. C'est juste la promesse que Earth 2 sera quelque chose. Et on a acheté une parcelle d'un truc virtuel. Donc, ça repense vraiment la chose à laquelle j'en arrive, c'est que ça repense la question de la propriété, cette question des NFT. C'était possible avant, mais ça a précipité la chose et ça a plein de conséquences hyper intéressantes. Alors bon, j'ai fait un gros résumé. Je vais m'arrêter de parler une seconde. Jeff, est-ce que tu as suivi cette histoire de NFT ? En plus, tu es au cœur de la Silicon Valley. J'imagine qu'il y a plein de millionnaires Bitcoin qui dépensent des sommes folles dans ce genre de bêtises. Mais qu'est-ce que tu penses de ces NFT, toi ?
Ça va être une longue réponse. Donc, désolé d'avance pour la longueur, mais ça, je pense que c'est intéressant de mentionner le contexte. C'est plutôt des milliardaires Bitcoin qui interagissent, mais ouais. Donc, mon histoire avec les NFT, ça remonte à peu près à 2 ans et demi. J'ai rencontré les fondateurs d'une boîte qui s'appelle Maker's Place, qui en fait sont deux des principaux ingénieurs qui ont lancé Pinterest. Donc Yash Nelapathy, c'était le premier ingénieur qui a construit Pinterest.com pendant que le CEO et son cofondateur essayaient de lever de l'argent. Et Danny Chu, c'était le VP Engineering qui était en charge de l'équipe de growth pour Pinterest. Et donc, leur idée, c'était de créer un espèce de Etsy pour le monde des NFT. Et étant donné le background de ces gens, j'ai décidé de travailler avec eux. Donc, j'ai investi et j'ai passé donc à peu près 2 ans et demi à voir le monde des NFT surgir dans les quelques semaines qui viennent de passer, ou à un point où tout le monde parle des NFT.
Et je précise juste une chose, effectivement, les NFT existent depuis un moment en tant que principe, et même, on le mentionnait il y a 2 ou 3 épisodes, les CryptoKitties, dont vous avez peut-être entendu parler, c'était déjà des NFT à l'époque. Donc c'est vrai que ça existe depuis un moment, même si c'est aujourd'hui que ça
date
devient...
Ça date d'à peu près 2 ans. Ouais. Ouais. Et donc... l'équipe de Maker's Place est en fait la plateforme qui a supporté avec Christie's la vente du JPEG de Beeple pour 109 millions, pardon. Un jour, ce sera des milliards. Et donc, quand on a mis le truc en vente, c'est passé de pas 10 000 dollars à 1 million de dollars en 10 minutes. Et dans la dernière heure d'action, c'est passé de 15 millions à 69 millions. Je pense que, donc pour répondre à ta question, c'est quelque chose dans lequel je suis impliqué depuis presque 3 ans. C'était en fait une vision que j'avais derrière l'investissement dans Maker's Place, qu'un jour, les gens voudraient en gros dématérialiser l'art qu'ils achètent, et qu'aujourd'hui, il y a énormément d'artistes qui s'expriment de façon digitale, qui font des trucs animés qui sont vraiment sympas, et des trucs qui sont à chier aussi, hein, pour être très clair. Et le fait qu'on ait à ce jour une transaction qui est la troisième transaction la plus haute pour un artiste vivant, c'est un peu un excès, mais aussi une réflexion du temps de la dématérialisation dans laquelle on vit. Et je suis super excité pour l'équipe de Maker's Place, mais aussi pour l'industrie en général. Parce que, comme on dit, « I put my money where my mouth is », j'ai mis mon argent derrière mes attentes.
Convictions.
Et, ouais. Mes convictions. Et donc, c'est super intéressant de voir qu'un artiste comme Beeple peut avoir un tel succès. Quoi.
Mais c'est-à-dire
que... C'est pas le seul à avoir vendu pour des millions de dollars.
On parlait de Grimes la semaine dernière. Enfin, tous les jours, on a l'impression qu'il y a un nouvel article qui vend des choses. Mais du coup, aux gens dont je ne fais pas partie, bien sûr, mais qui se disent, qui sont perplexes devant l'idée d'acheter un truc comme le JPEG de Beeple, c'est en fait, c'est en quelque sorte un autographe ou un certificat de... Moi, je faisais le parallèle à l'époque avec le film de Thomas Crown Affair où Thomas Crown vole, entre guillemets, une œuvre d'art, mais qui en fait reste dans le musée, enfin il le ramène dans le musée, il est toujours dans le musée, avec un faux peint par-dessus. Et donc il est le seul à savoir qu'il possède, entre guillemets, l'œuvre originale, parce qu'il est dans le musée, enfin l'œuvre est dans le musée, mais lui il sait qu'il l'a volée et il l'a remise. Même si personne d'autre ne le sait, il s'en fout et il ne l'a pas chez lui. C'est juste une question de savoir que c'est à nous. Est-ce que c'est un sentiment similaire, là, dans l'histoire de la vente du truc de Beeple, où il y a un truc mercantile derrière, ou qu'est-ce que tu dirais aux gens qui se disent « mais je ne comprends pas qu'on achète du rien, quoi ».
Bah, en fait, ce n'est pas du rien. C'est, la blockchain te permet, en fait, de définir le certificat d'authenticité pour quelque chose que tu achètes, et la seule chose qui n'existe pas, c'est une espèce de matérialisation de cette pièce d'art. Bon, en fait, tu peux aussi l'imprimer sur une imprimante spéciale qui te la transforme en tableau, si tu le veux, mais ça, c'est pas
unique. Mais n'importe qui peut faire ça, oui.
N'importe qui peut le faire, et donc, c'est comme de dire, bah, aujourd'hui, imagine, tu as 10% de Maker's Place, et ça, c'est défini de façon électronique dans un record quelque part sur Internet, et je suis celui qui a 10% de Maker's Place et personne d'autre, bah c'est la même chose. C'est une question de je peux certifier l'authenticité de quelque chose, c'est quelque chose qui a de la valeur et où je pense que la valeur future va augmenter par rapport à la valeur d'aujourd'hui, donc c'est pour ça que je fais l'investissement.
Mais tu penses, parce que Maker's Place, ils font un produit, ils fournissent un service, c'est un investissement sur la valeur future imaginée de quelque chose, mais quelque chose qui est un petit peu plus tangible que juste un JPEG qu'on peut reproduire. Ou alors tu te dis, ce certificat de propriété,
à la fois d'authenticité
qui
se... propriété.
Ouais, qui aura plus de valeur. Ça peut être un investissement de la même manière qu'autre chose peut être un investissement. Ouais, c'est ça, oui, qui motive peut-être le truc.
Ça paraît un peu fou, mais quand tu penses... Enfin, je veux dire, énormément de pièces d'art, que ce soit musique, que ce soit peinture, que ce soit photographie, n'ont que des représentations qui sont intangibles.
Depuis la définition en format physique. Depuis la définition de l'art, c'est quand même de questionner, de critiquer, de révéler un peu autrement qu'est-ce qu'est le réel, notamment notre rapport à la possession, notre rapport à l'art, notre rapport au tangible et à l'intangible. Il y a des œuvres d'art qui sont éphémères. Et du coup, qu'est-ce que tu achètes quand tu achètes une photo de l'œuvre d'art qui était éphémère? Tu n'en achètes qu'une photo, tu n'achètes pas l'œuvre en elle-même. Donc en fait, la notion de possession est assez intéressante. Et ce qui, encore une fois, intéressante, c'est qu'autrement, à un moment donné, le pop art avait été grandement critiqué parce que justement, ça joue avec la notion de reproductibilité et de production en masse. Ici, on est sur s'ancrer, encore une fois, dans notre société contemporaine où beaucoup, beaucoup de biens sont numériques, plus intangibles que ce qu'on a dans notre environnement traditionnel. Et l'art se l'approprie pour jouer justement avec ces codes. Je trouve ça particulièrement intéressant.
Ouais. Il y a à la fois effectivement une sorte de volonté artistique et en même temps une question de spéculation, je pense, pour certains d'entre eux au moins. Et puis,
l'art, ça a toujours été ça.
Ouais. Oui, c'est sûr.
Il y a toujours une notion de spéculation avec l'art. Hein.
Mmh. Ouais. Oui, complètement.
La spéculation avec l'art, puis tu as la spéculation avec les crypto-currencies. Ouais. C'est-à-dire que Makerspace aujourd'hui... Te permet de faire des transactions aussi bien en fiat, donc en dollars, en euros, que en cryptocurrencies. Et la plupart des grosses transactions sont faites en ETH, parce que ce sont des crypto whales donc des gens qui ont amassé énormément de richesses grâce donc au fait que bah, aujourd'hui Bitcoin est à 60 000 $, donc 55 000 €. Et donc ils ont accumulé énormément de richesses et ils l'utilisent pour acheter des trucs virtuels parce que ça les amuse.
Tu penses qu'il y a beaucoup de ça représente une grosse partie de cette spéculation, peut-être sur celui de Beeple, mais pas seulement, ou c'est anecdotique quand même, c'est pas ça qui propulse le tout?
Je pense qu'il y a effectivement pas mal de gens qui ont fait de l'argent sur les cryptocurrencies qui sont actifs dans le domaine, parce qu'ils diversifient en quelque sorte un petit peu leur richesse. Mais il y a aussi des gens qui sont des collectionneurs naturels d'art et qui voient en fait dans l'art digital la nouvelle frontière pour la catégorie, et donc qui vont investir et acheter des œuvres virtuelles. Et ensuite, le challenge pour eux, c'est de voir comment est-ce qu'ils vont essayer de représenter cette pièce d'art virtuelle dans leur collection. Et c'est pour ça qu'en fait, on essaie de trouver des solutions où aujourd'hui, on met ça sur des télé grands écrans, grande définition, de manière à ce que tu puisses montrer ce que tu as. Mmh. Bon, Beeple, la transaction à 69 millions, c'est un truc qui est complètement off the chart, mais il a déjà vendu plusieurs œuvres à plusieurs millions de dollars.
Mmh. Ouais. Et comme on le disait, il l'a déjà fait et il n'est pas le seul. Donc, il y a beaucoup de... En fait, la valeur de l'art, quelle que soit sa nature, la valeur de tout, quasiment, à moins que vous puissiez l'utiliser pour quelque chose qui crée, je ne sais pas, de l'énergie ou de la bouffe, bah, la valeur a toujours été spéculative, que ce soit l'or ou les diamants ou même la valeur de, bah, comme on disait, la Joconde ou ce genre de choses. Donc, c'est pas si différent que ça, en fait. Le fait que ça soit virtuel est pas si différent qu'on le pense de quelque chose de tangible.
Bon, ce qui est intéressant, c'est l'aspect virtuel, où c'est vrai que on a beaucoup challengé sur est-ce que la définition d'une œuvre d'art, c'est d'être placée dans un musée ou pas. Rappelez-vous, l'urinoir de Marcel Duchamp,
ouais,
etc. C'était justement pointer du doigt cette déclaration, et les œuvres d'art se sont sorties des musées, et jusqu'où ça va aller? Est-ce que c'est sortir du réel, de quelque chose de tangible aussi? Là, on y est, et c'est ça qui est intéressant.
Complètement. Pour ceux qui ne se souviennent pas, on critique beaucoup l'histoire de l'urinoir, et si je me souviens bien de mes cours et de l'explication, parce que moi, je ne suis pas un artiste dans l'âme, mais encore que peut-être, mais l'idée, c'était vraiment de questionner la notion d'art, comme le font de nombreux artistes, mais on était un petit peu au plus fort de cette mouvance, et c'était, si je mets un urinoir dans un musée, est-ce que c'est de l'art? Est-ce que ça devient de l'art? Et du coup, la question s'applique complètement à des NFT. Est-ce que si je décide que c'est de l'art et que quelqu'un paye 69 millions de dollars pour, est-ce que c'est de l'art, même si ça n'existe pas, même si ça n'existe pas physiquement dans notre monde tangible?
Ça existe dans un monde digital, c'est tout.
C'est pour ça que je dis, ça n'existe pas dans notre monde tangible, c'est-à-dire que c'est pas un truc que tu peux toucher. L'urinoir ou la Joconde,
oui,
tu peux les toucher.
Tu peux pas toucher une chanson, tu peux pas toucher un film, c'est pareil.
Tu peux toucher l'enregistrement d'origine, tu vois, si t'achètes les cassettes d'origine de, je sais pas, Let It Be, tu peux les toucher.
Tu peux acheter le disque dur de Beeple.
Mais c'est pas ça qu'il a vendu. C'est pas ça qu'il a vendu, c'est pas son disque dur. C'est le JPEG qui est un fichier. Tu vois,
ça revient à la même chose. Regarde, c'est la même chose que quand un artiste vend ses masters. Donc, le droit à la reproduction, ce sont le droit de propriété est attaché au master original de la chanson. Bah là, c'est la même
oui,
chose.
Oui, mais fait, non, là, mais je suis là, pas. Moi, je suis pas d'accord que c'est la même chose, parce que le master, justement, c'est la symbolique de l'objet physique que tu as. Et là, t'as que la symbolique, t'as pas l'objet physique. Et en plus, la chose est reproductible numériquement à l'identique, à l'infini. Et c'est ce qui a fait disparaître, en fait, l'idée de propriété dans un monde numérique, c'est que tout était reproductible à l'infini. Et là, il y a une partie de l'acte d'appropriation qui a été singularisée, qui a été non-fongibilisée, et c'est ça que représentent les NFT. Mais le JPEG, enfin à moins que je me trompe, hein, mais le JPEG en question de Beeple, c'est pas un disque dur, c'est pas une bande magnétique, c'est vraiment un truc uniquement numérique. C'est que en fait c'est un petit peu Beeple qui dit bah c'est à toi que je l'ai vendu, mais vendu quoi? C'est il y a rien, il y a pas.
Bah, c'est un truc uniquement numérique avec un hash qui est enregistré sur le blockchain, ouais. qui certifie qu'il y a une version unique.
Ouais, complètement, complètement. Mais c'est un truc numérique. Et qui est 100%, 1000% identique à une copie du même truc. C'est-à-dire que si on fait une copie de la Joconde, bah ça ne sera jamais la même chose, pile 100% identique que la Joconde, à moins qu'on ait un réplicateur dans 2000 ans et dans le monde de la science-fiction. Mais ça, c'est en ce sens-là, c'est différent. Bon, bref.
Oui, mais Patrick, tu peux le comparer aussi avec photos imprimées en fait, et généralement elles sont numérotées pour des séries, etc., pour rendre la chose unique.
Ouais,
mais en fait,
les
photos, tu peux les imprimer, tu as des séries, et là aussi tu as une notion de reproductibilité qui est rendue unique juste par la numérotation.
C'est pareil dans le monde virtuel, c'est-à-dire que on a des artistes qui vendent une version numérotée de leur pièce d'art. Donc Beeple aurait pu dire je veux pas en vendre une, je vais en vendre cinq.
Ouais.
Et tu aurais eu donc la première vendue à 1 million de dollars, la deuxième vendue à 10 millions de dollars, la troisième à 15 et la dernière à 69.
Ouais.
Parce qu'en fait, ce qui se passe quand tu crées un certain nombre de copies, c'est toujours la dernière copie qui se vend le plus cher.
D'accord. Écoute, c'est hyper intéressant effectivement et je pense qu'on n'a pas fini. C'est marrant parce que dans le rendez-vous tech, comme je le dis souvent maintenant, on a commencé en parlant d'iPhone et d'applications et d'Android, et puis on a commencé à parler de politique, de communication, d'économie, tout ça. Je ne pensais pas qu'on en viendrait à parler presque de métaphysique de l'art. Et pourtant, voilà, on y est.
Ah bah, là, dès que tu rentres dans l'art et l'art contemporain, tu y es. Hein.
Ouais, complètement. Mais c'est marrant qu'on y vienne par la tech. Quand je dis qu'on ne peut pas comprendre le monde sans comprendre la tech, il faut bien percevoir que cette histoire de NFT est en train d'avoir des influences sur l'ensemble du monde de l'art. Et ça va, c'est pour ça que j'ai donné cet exemple de DC Comics, ça touche jusque ça. Et bien sûr, les NFT existent depuis, allez, deux ans et demi, en tant que concept technologique, mais là, depuis, ça ne touche vraiment tout ça dans le monde commun que depuis quelques semaines, depuis que les gens se sont aperçus que NBA Top Shots fonctionnait très très bien, comme on en parlait dans l'épisode où j'expliquais. Et en quelques semaines, c'est en train de tout bousculer. Il y avait vraiment un besoin latent d'unicisation, d'uniquification des créations numériques. C'est hyper intéressant. Un autre truc que je voulais évoquer qui sera dans la newsletter, donc comme toujours, vous allez sur notepatrick.com pour vous abonner, mais c'est un rapport de l'excellente Taylor Lawrence dans le New York Times sur NewNew. NewNew, c'est un moyen pour les créateurs de monétiser leur communauté, et la manière dont ils le font, c'est un truc que je n'avais pas vu encore jusqu'à maintenant. Les gens de la communauté d'un créateur peuvent acheter, avec de l'argent réel, du pouvoir de vote. Et ensuite, les créateurs vont poser des questions sur ce qu'ils vont faire dans leur journée. Par exemple, est-ce que je vais manger des tartines ou des céréales ce matin ? Et les gens de la communauté peuvent voter sur la chose et ensuite la personne va le faire a priori. C'est en tout cas le système qui est utilisé sur NewNew. Et je vous laisserai explorer l'article, c'est absolument fascinant. Si vous pensez que non mais ça va trop loin, peut-être, je vous laisserai juge de la chose. Ça peut être utilisé de manière intéressante peut-être.
On dirait un pitch d'un épisode de Black Mirror.
Mais complètement, complètement. On est pile là-dedans. Mais j'ai trouvé ça très drôle. Et franchement, utilisé avec un petit peu de rigueur, ça peut être rigolo. Hein, mais bon, j'ai trouvé
tu
ça
dois faire ça, toi, en tant que créateur ?
Je suis trop vieux, en ce sens que... j'ai des Non, mais je t'explique. J'ai des impératifs avec un enfant déjà là et un autre enfant qui arrive. J'ai pas le temps et l'énergie de faire ce genre de truc. Dans quelques années, peut-être, pourquoi pas. Alors, je vous garantis que je ferai pas des décisions trop importantes. Alors, est-ce que je dois déménager ? Non, c'est pas... non. Mais ça peut être marrant pour des trucs. Genre, est-ce que je vais regarder telle ou telle série et puis après, on en parle ? Est-ce que je vais jouer à tel ou tel jeu ? Tu vois, ça peut être ce genre de truc. Ça peut être marrant, pourquoi pas ? Ça peut fonctionner. Donc, bon.
Je questionne sur l'indépendance... sur le, tu vois, le créateur qui va, après il y a plein de types de créateurs différents, mais qui produit, tu vois, un créateur qui produit du contenu, il a sa ligne éditoriale, il a une certaine indépendance de ligne éditoriale en fonction de principe du créateur. Et là, carrément, de mêler les choix sur sa vie personnelle, en fait, c'est pas forcément des choix personnels, hein, en effet, ça, c'est un peu la télé-réalité.
Ouais, c'est ça.
Oui. C'est un peu le nouveau niveau de télé-réalité, en fait.
Ouais. Mais tu peux l'utiliser pour plein de choses. Hein. Eux, ils l'utilisent pour est-ce que je vais boire un cocktail ou un café. Ouais. Mais tu peux l'utiliser pour à quel jeu je vais jouer, quel sujet on va traiter. Oui, ça peut être des trucs très.
Mais ça commande sains, tes actions. Ça commande tes actions. Alors qu'en fait, tu vois, tu as une notion de quand tu es créateur, tu ne demandes pas forcément à ta communauté de décider pour toi. Sur ta ligne éditoriale, sur les articles que tu vas faire, etc. Peux leur demander leur avis, mais tu gardes ton indépendance et ta décision au final. Là, c'est intéressant, ça brise cette limite-là.
C'est-à-dire que si ça peut te permettre de... Là encore, il y a une question de jusqu'où va-t-on trop loin, tu vois, avec l'argent. Ouais. Mais si ça peut permettre à certains créateurs de diversifier leur... Moi, ça va, ça me préoccupe pas trop parce que heureusement, grâce aux patriotes formidables, j'ai pas ce genre de soucis et de questions qui se posent. Mais il y a des gens qui ont peut-être des problèmes pour financer leur activité et peut-être qu'utiliser avec intelligence, ça peut leur permettre de générer des revenus qui leur permettent de continuer, et peut-être hein, que ça peut donner quelque chose. Bon, selon l'article de Taylor Lorenz, c'est un petit peu, je vous laisserai aller lire, mais c'est un petit peu, comment dire, ça a l'air d'être des publics un petit peu plus jeunes peut-être, qui font des trucs un petit peu plus, c'est un public un peu plus YouTube, donc c'est parfait pour Jérôme. Je pense que Jérôme Kainborg, notre ami de Nowtech, va pouvoir aller sur New et commencer à faire payer les gens pour ses décisions. À propos de financement, eh ben écoutez, je vais vous dire un tout petit mot sur Patreon. Vous savez ce qu'est Patreon, hein, vous le connaissez, c'est un moyen hyper simple. Il n'y a pas d'histoire de NFT, d'achat, de pouvoir de vote ou tout ça. C'est très simple. Vous appréciez ce qu'on fait, vous appréciez le rendez-vous tech, eh ben vous décidez que vous voudriez donner 1 euro, 2 euros, 3 euros par épisode. Vous dites, ça vaut le prix d'un café. Voilà, moi j'aime bien, je passe un bon moment. Vous me faites marrer, vous m'expliquez des choses, je vais te filer l'équivalent d'un café, je vais te payer ton café pour tes épisodes. Donc vous allez sur patreon.com, vous rentrez vos informations et à la fin du mois, vous êtes débité de la somme que vous avez décidé de donner. C'est tout simple et vous pouvez vous arrêter absolument quand vous voulez. Donc c'est un moyen de monétisation, un moyen de financement du travail que je fais qui est à mon sens hyper sain parce que vous pouvez décider de soutenir et ça permet, comme je le disais en introduction, à tout le monde de profiter du résultat de votre financement. Vous pouvez bien sûr avoir des avantages, hein. Vous avez l'émission sans pub, sans ce petit laïus au milieu, vous avez des contenus bonus, etc. Mais tout le monde a le droit d'écouter cet épisode, qu'il soit patriote ou pas. Et c'est grâce à vous, grâce à ceux qui soutiennent que l'émission peut exister et que je peux faire mon travail, qui est mine de rien assez sérieux comme travail. On dirait pas comme ça, mais il faut beaucoup d'expérience et de persévérance pour faire le rendez-vous tech. Donc, si vous appréciez, si vous passez un bon moment, si vous apprenez quelque chose, je vous encourage à participer à cette révolution de la création qui a lieu depuis quelques années déjà et à aider les créateurs comme moi ou comme d'autres, hein, pourquoi pas, à faire leur travail. Donc un grand merci à tous ceux qui le font déjà et un grand merci à vous si vous pensez peut-être à le faire. C'est sur patreon.com/rdvtech, le lien est dans les notes de l'émission et vous pouvez le faire depuis votre téléphone mobile. Tout de suite, là maintenant, vous pouvez prendre votre téléphone mobile, aller sur patreon.com et regardez ce que ça donne, ou alors quand vous rentrez chez vous sur votre ordinateur, patreon.com/rdvtech.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites.
So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Alors, on a plein de plus petits sujets à aborder. Je voudrais très rapidement demander son avis à Jeff sur Clubhouse, dont on a beaucoup, beaucoup parlé jusqu'à maintenant. Clubhouse, bulle ou vrai service, à ton avis, en quelques mots?
Jeff? Bah, écoute, j'avoue que je ne sais pas encore trop au début. Je pensais que c'était une bulle telle qu'on s'est créée...
dans la Silicon Valley.
C'est incroyable parce qu'il suffit qu'il y ait trois viciers, deux entrepreneurs qui se mettent derrière un service nouveau pour dire que c'est le nouveau truc. Cela dit, j'ai été surpris aussi bien par la capacité de la boîte à lever énormément d'argent à une valo incroyable, donc ils sont valorisés à $1 milliard alors qu'ils font zéro de revenu. Bon, ça, c'est pas la première boîte en Californie, donc c'est pas surprenant. Mais il y a énormément de gens qui s'y retrouvent, aussi bien Elon Musk, Mark Zuckerberg, etc. Donc, je pense pas que ce soit la prochaine boîte qui aura de l'importance dans le monde des médias, mais objectivement, ça a duré plus longtemps que ce que je pensais.
Bon, écoute, on continuera à suivre ça. Au moins, tu es circonspect. C'est intéressant à entendre depuis le cœur de tout ça. Un domaine de recherche intéressant, bien sûr, c'est les deepfakes, et on voit de plus en plus de deepfakes dans les news, là encore. Des chercheurs ont réussi à développer un outil qui analyse, c'est un outil en intelligence artificielle, bien sûr, lui aussi, qui analyse la réflexion dans les yeux des personnes créées par deepfake et qui, par ce biais, en détectant les différences entre les réflexions, peut déterminer si la personne est un deepfake ou pas, puisque, évidemment, normalement, il faudrait avoir les mêmes réflexions. Alors, ça marche que pour les images de face, donc c'est limité, mais c'est important de noter parce qu'on commence à voir l'arrivée des outils pour détecter ce type de création ou de vidéo ou d'image. Et ça commence vraiment à arriver. Très intéressant. Amazon serait en train de travailler sur un robot qui marcherait avec Alexa, en gros. Un robot qui pourrait se déplacer, qui a plusieurs caméras. Le nom de code, c'est Vesta. Et ils ont plus de 800 personnes qui travaillent dessus. C'est un tout petit robot et en gros, un Alexa sur roulette. Et donc, si vous êtes prêt à avoir un Alexa sur roulette qui vous suit avec plein de caméras, bon, il y a Amazon qui est prêt pour vous. Vous êtes prêt à avoir un Alexa qui vous suit partout? C'est utile ou vous avez déjà des Alexa dans toute la maison, donc vous en foutez? Non, Marion?
Je ne suis pas très, très cliente de ça. Je commence à utiliser un petit peu Siri, parce qu'on n'a pas Alexa, mais on a plutôt Siri. Ça fonctionne quand même pas super bien, mais bon, Siri est connu pour ne pas être le meilleur des assistants vocaux, donc je ne vais pas non plus condamner tous les assistants vocaux. Mais non, c'est encore un peu trop tôt. Là, tu vois, c'est mon côté un peu vieillot qui remonte là-dessus.
Ouais. Je crois ça va être le genre de projet qui va être un petit peu jeté au placard, mais c'est le genre de truc qu'ils explorent pour voir ce que ça donne, mais je ne suis pas convaincu non plus. Mais par contre, il y a
J'avais voulu acheter ça il y a à peu près 3 ans. Donc, un espèce de robot qui... Parce que à l'époque, je passais la moitié du temps au bureau de San Francisco et la moitié du temps dans mon bureau à Palo Alto. Et donc, j'avais dit, tiens, je vais avoir un robot qui va me représenter dans les bureaux de San Francisco et qui viendra dans les meetings, etc. etc. Et le feedback de mon équipe, c'était que c'était hors de question parce que d'un seul coup, il y aurait un espèce de machin qui les espionnerait. Qui irait partout et que c'était une intrusion de la vie privée et vie professionnelle et donc hors de question.
C'est pour ça que je mentionne les caméras, bien sûr, parce que un robot qui va partout avec des caméras, je pense que rien que ça, c'est déjà non pour pas mal de gens, quoi. Un micro, ça va, une caméra, bonjour les dégâts.
Non, c'était le fait qu'il y ait quelque chose qui suive les gens. C'est-à-dire que le fait qu'ils puissent contrôler la caméra qui me permet de voir ce qui se passe dans la salle de réunion où que je rejoins donc de façon virtuelle, ça allait, mais le robot que moi je peux contrôler pour rentrer, tourner la caméra, voir que les gens font, ça, c'était pas OK.
C'était niette. Pourtant, Amazon a déjà annoncé... Ouais, c'est un peu... En plus, si tu lui mets un masque de Jeff dessus, tu sais... Et...
Même une photo, ouais.
Creepy.
C'est ça, exactement. Mais il y a des robots qui font un peu ça, qui sont très bien pour la téléprésente, notamment pour les personnes handicapées, par exemple. Mais bon, évidemment, c'est un cas très différent. Mais Amazon avait annoncé un drone qui serait dans la maison et qui pouvait justement se déplacer avec une caméra. Bon, on n'en a pas encore vu le bout de l'hélice, on va dire. Un autre projet d'Amazon qui est pour le pas d'Amazon pardon de chercheurs qui est hyper intéressant mais qui utilise des enceintes intelligentes comme Alexa, c'est alors tenez-vous bien, on est dans la science-fiction presque, c'est un projet qui utilise donc ces enceintes pour envoyer un son inaudible qui est ensuite redétecté par les micros et qui en fonction des variations du son peut déterminer si vous avez un rythme anormal dans votre rythme cardiaque. Et c'est encore un projet de recherche, donc on est au début. Il y a deux algorithmes différents, un qui envoie le son et un qui le détecte, enfin qui l'analyse. Mais on est vraiment dans un truc qui est sérieux. C'est pas là un projet fantaisiste, c'est un projet qui est très sérieux et qui pourrait être utilisé pour, bon, peut-être pas pour tout le monde, mais qui peut donner une indication, comme on le dit souvent, aux utilisateurs qui auraient des problèmes cardiaques déjà à la base pour leur dire « Attention, vous devriez peut-être tester un truc, là, ça pourrait être un indicateur, quoi. » Donc, je trouve ça hyper intéressant. Le lien sera aussi dans la newsletter. Un autre projet hyper intéressant, c'est le projet de ces Citizen, comment ils appellent ça, Split Screen Citizen Browser, encore dans la newsletter, décidément si vous n'êtes pas abonné, il est temps, qui a fait une étude sur les flux Facebook que voient différents types de personnes. Alors le plus intéressant évidemment, c'est celui entre les voteurs, les partisans de Joe Biden et les partisans de Donald Trump. Mais il y a aussi les différences entre hommes et femmes, millennials et boomers. Et ils ont fait l'étude avec plusieurs centaines de personnes. Alors, c'est relativement limité encore, mais à quel point les flux sont différents? L'un des gros problèmes des flux Facebook, c'est que c'est tellement granulaire qu'on ne sait pas ce que voient les autres. Il est impossible d'aller regarder ce qui se passe dans le flux de quelqu'un d'autre parce que c'est vraiment fait pour chaque personne individuellement. Et donc, les chercheurs ne peuvent pas vraiment savoir ce que voient les gens et en tirer des conclusions. Et là, c'est une petite indication de ce qu'on voit. Et je vous encourage à aller regarder. Parce que c'est quand on dit on vit pas sur le même internet que les uns que les autres, mais c'est saisissant, vraiment saisissant. C'est juste pas du tout. Alors c'est peut-être présenté de manière à mettre en exergue les différences, mais c'est juste pas la même chose. Et quand on dit parfois, moi j'étais un petit peu sceptique sur l'idée que on n'a pas la même réalité si on n'a pas le même internet. Et je suis sûr qu'il y a des gens qui vont me dire oh, mais si, bien sûr, je le savais. Oui bon, on le savait, on sait tout de toute façon, mais le voir là, c'est frappant. Je vous encourage à aller y jeter un coup d'œil. On parlait d'enceintes connectées. Apple a déjà annoncé qu'ils allaient arrêter de vendre leur HomePod, leur gros HomePod. Ils vendent quand même le mini, mais le HomePod, il est... ça y est, c'est terminé. 4 ans après son lancement, je crois, 3 ans, quelque chose comme ça. C'est vrai qu'il était un peu cher quand même, mais le mini est encore en vente, il fonctionne pas mal. Et ils ont aussi annoncé que... Enfin, les rumeurs disent que l'iPhone 12 mini a été réduit en production, on va dire, de 70%. Donc, confirmation de ce qu'on entendait déjà. L'iPhone 12 mini était peut-être un truc que certains pensaient important. Les petits téléphones, parce qu'ils deviennent de plus en plus grands, ben non, il semblerait que ça se vend beaucoup, beaucoup moins que ce qu'ils espéraient.
Il est tellement bien.
Le mini ?
Oui.
C'est vrai, toi, tu as un mini ?
Ouais.
Bah écoute, il y en aura encore. Hein. Ils ont réduit de 70% la fabrication, mais ils ne l'ont pas complètement annulé. Donc, il sera encore disponible.
Alors, pour les mains, comme les personnes ont, enfin, pour les personnes qui ont les mains de la même taille que moi, c'est idéal.
Visiblement, il y a des gens qui sont clients. Donc, merci de les représenter sur cette émission, Marion. Est-ce que tu partages ton compte Netflix, dis-moi?
Oui.
Ah ah! Eh bien, écoute, la fin est proche. Netflix est en train
Non, 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 parce qu'on cherche un logement. Donc, en fait, ça sera bientôt justifié.
Ah, d'accord, d'accord. Très bien. Donc, ouais, en
si,
fait,
si tu restes dans la même famille, famille au sens large, c'est OK, non? Enfin, nous, on partage notre compte Netflix avec à 4. Et a priori, c'est permis. C'est dans, ça reste dans la même famille.
Alors, normalement, c'est la même maison. Dans la même famille, oui, mais dans la même maison. Et c'est ce qu'ils sont en train de commencer à limiter ou de tester à limiter. Ils sont en train d'afficher des messages pour dire « Oh, vous, normalement, c'est limité aux gens qui sont sous le même toit. Donc, si vous voulez continuer à regarder, peut-être qu'il faudrait… »
C'est le même toit virtuel. On est trois ici, sur la côte ouest, ma fille sur la côte est, mais c'est le même toit virtuel.
Mais oui, Netflix, mettez-vous à leur NFT, virtualisation, numérique, voilà.
Non, mais c'est pas très moderne. En 2021, le foyer, qu'est-ce qu'un foyer de, sous une même toit
Qu'est-ce qu'un foyer, enfin? Vous avez 2 heures. mais j'apprécie, Marion, le fait que cette nouvelle vous a poussé à chercher un nouveau logement parce que vous ne pouviez plus partager votre compte Netflix. Vous ne vouliez pas casquer. Et donc, oui, je comprends, c'est bien.
On se sacrifie pour Netflix.
Ils seront extrêmement heureux de l'apprendre. Je voulais parler de la Russie et de la Chine, mais on va parler juste de la Chine. Un phénomène intéressant, plusieurs développeurs, enfin plusieurs chefs d'entreprise en Chine, semble-t-il, sont très inquiets de ce qui se passe avec Jack Ma. Vous savez que Jack Ma, le patron d'Alibaba, a un petit peu disparu de la scène publique parce que la Chine a estimé qu'il avait beaucoup trop de pouvoir. Et on a plusieurs signaux qui disent, alors évidemment, ils ne vont pas dire le contraire eux-mêmes, mais qui disent que de nombreux fondateurs de sociétés et investisseurs sont très préoccupés parce que si la réussite dans le domaine de la tech en Chine vous met dans le collimateur du parti, ils craignent que, du coup, ça soit beaucoup plus difficile, enfin, qu'il y ait beaucoup de gens qui hésitent à se lancer et à chercher le succès. Et du coup, ça peut avoir une influence sur l'industrie technologique en Chine. Alors, on comprend bien le mécanisme, hein, mais c'est un angle auquel je n'avais pas forcément pensé en entendant les rumeurs et les rapports au sujet de Jack Ma. Donc, je voulais le noter, c'est quand même hyper intéressant. J'imagine que Jeff, tu me confirmeras que ce genre de choses peut pousser les investisseurs et les fondateurs à se dire « Ouais, finalement, peut-être pas par là-bas, quoi. Ça peut influencer l'écosystème, j'imagine.
Bah, » c'est le problème d'investir ou d'innover en Chine, c'est que bah, tu as un régime qui est assez répressif sur la façon dont ils veulent que les choses se passent. Et bah, clairement, Jack Ma, il a dit des choses et fait des choses sans même compter le fait qu'il est, c'est un des hommes les plus riches du monde qui ont rebroussé le poil du mauvais côté au niveau du comité central, et donc il en a lui et ses boîtes dont Ant Financial ont eu les conséquences.
Ouais. Et le problème, et c'est
ça
que
ça veut dire qu'en Chine, même si tu as des dizaines de milliards de dollars, ça change rien.
Ouais. C'est surtout la crainte, c'était, enfin, la crainte du parti, c'était la puissance qu'avait Jack Ma. Et enfin bon, bref, on pourrait en parler bien longtemps, mais on a compris la chose. Ce qui est intéressant à noter, c'est que la Chine est en train de devenir une puissance tech incontournable. Et au moment où ils sont en train d'essayer
de
dépenser... Oui, non, évidemment, oui, tu as raison de me corriger, mais ils sont en train d'établir un plan à 5 ans pour diminuer leur dépendance des autres pays, notamment des États-Unis. Et ce que disaient justement les analystes, c'était qu'ils vont avoir besoin de l'implication de gens qui sont très, pas juste au fait, mais qui ont beaucoup de succès dans cette industrie. Et peut-être que ça va en refroidir certains, parce que pour même s'ils sont déjà hyper hauts dans la liste des pays qui comptent dans la tech, si, pour accomplir ce qu'ils veulent accomplir, il y a encore beaucoup de travail qui reste. Et donc, c'était intéressant de mettre ces deux éléments en parallèle. Jeff, je crois que tu vas devoir nous quitter, malheureusement. Oui. On va devoir finir sans toi.
Oui, malheureusement, je vais vous quitter parce que c'est il est presque 2 heures ici et c'est mon prochain rendez-vous. Donc, c'était un grand plaisir de me joindre à vous. Merci pour l'opportunité de parler des NFT. C'est super rigolo que, en fait, tu parles de
pile du sujet au moment.
Exactement, ce qui est en gros une des choses sur lesquelles je passe beaucoup de temps. L'autre tendance actuelle, c'est le SPAC. Donc, c'est la mise sur marché public.
Je voulais t'en parler. Les SPAC, c'est une société qui est créée sans but spécifique et qui ensuite fusionne avec une start-up, la transformant tout à coup en start-up, en société publique. Ouais. Et j'en parlais il y a quelques mois de ça et je me souvenais que je voulais te poser ta question. On a encore 2 minutes. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur les SPAC ?
Oui, écoute, c'est la dernière chose en vogue. Aux États-Unis, tu en as 150 aujourd'hui qui ont levé des dizaines de milliards de dollars et qui sont en train de faire une chasse donc, pour trouver des boîtes avec lesquelles ils vont se combiner de manière à transformer donc, la boîte vide en boîte pleine, en quelque sorte. Donc, il y a tellement d'argent aujourd'hui qui a été mis sur le marché sur cette base que tu vas avoir des tonnes de merde qui vont aller sur les marchés publics, qui vont exploser en vol, mais tu auras aussi des très belles boîtes qui auront décidé d'accélérer donc leur croissance. Parce que bon, aujourd'hui, pour être une boîte publique sur les marchés américains, il faut dépasser les 100 millions de dollars de revenus, il faut avoir un certain modèle de croissance. Bon, des profits, ce n'est pas la peine, parce que ici, on s'en fout, mais tu as quand même un certain nombre de critères dont tu as besoin pour aller public, et en quelque sorte, passer par un SPAC, c'est une façon d'éviter ces critères-là. Et sans la mentionner, je suis en train de travailler sur un SPAC pour une de mes boîtes qui n'a que 5 millions de dollars de revenus, mais qui a un potentiel monstrueux. Et donc, plutôt que d'aller chercher un prochain tour de financement de 30 millions de dollars, on va dire, pour une certaine dilution pour les fondateurs, ils vont potentiellement lever 300 millions sur les marchés publics pour la même dilution. Donc, si jamais tu as l'opportunité, tu le fais. Et puis après, tu vois un peu où le marché va aller. C'est à la fois la folie et le goût du risque des marchés américains qui ont beaucoup d'appétit pour ce genre de boîte. Parce que si tu arrives à rentrer dans une boîte qui vaut 1 milliard et que la boîte devient, comme Stripe, une boîte à 100 milliards, tu as fait énormément d'argent. Donc, c'est à la fois un excès du marché américain, mais aussi une réflexion que si tu trouves la bonne boîte, tu peux faire énormément d'argent.
Donc, bon, j'aurais plein de questions à te poser. Malheureusement, on a plus trop de temps, donc on va rester dans cette description un petit peu sommaire. Mais ce n'est pas un truc un peu bizarre, ce fonctionnement ? Parce que normalement, pour qu'une boîte
fasse de privé... La spéculation, en gros, c'est tu fais payer au petit porteur qui investit dans ces boîtes, le risque que des professionnels de l'investissement comme moi prenons quand on investit super tôt dans la vie des boîtes.
Donc, c'est une forme d'investissement en fait dans une start-up au milieu de
ce... C'est du supra-spéculatif. Donc c'est ce que je fais moi au jour le jour, c'est mon métier, c'est ce que je fais depuis 21 ans. Quand ça marche bien, tu fais énormément d'argent pour tes investisseurs. Et donc, ce sont des véhicules qui te permettent en fait, de prendre le même niveau de risque que moi et de faire autant d'argent que moi pour mes investisseurs. Le problème, c'est que moi, j'ai un portefeuille et sur tu vois, une trentaine de boîtes dans lesquelles j'investis, j'en ai 15 qui explosent en vol et j'en ai 15 qui ont du succès. J'en ai 3 ou 4 qui deviennent des boîtes à plusieurs milliards. Et là, en gros, on te propose de participer sur des mêmes véhicules, mais faut bien comprendre que la probabilité que tu te casses la gueule et que tu perdes tout, c'est genre 99,9%.
Ouais, parce qu'une SPAC, donc, c'est une société qui est publique, dont le but est de fusionner avec une société privée, une start-up privée, pour rendre cette start-up privée publique sans passer par le processus de passage public. Et
le passage public et de validation nécessaire. Ouais. Et en gros, ce sont des boîtes qui sont beaucoup plus, beaucoup moins mûres. Et donc, la probabilité que ce soit des boîtes qui n'auront pas de succès dans le marché public, parce que c'est très, très, très dur d'être une boîte dans un marché public américain, ça veut vraiment dire qu'il faut que tu fasses attention à ce que tu fais. Quoi. Mmh.
Super, bah merci beaucoup pour ces détails, Jeff. On te laisse filer.
Avec grand
Jeff,
plaisir. À Twitter. Très bientôt.
Ciao, ciao.
Tout le monde. Salut. Mmh.
Allez, on va continuer avec quelques petits détails encore, quelques petits sujets, comme par exemple la question du port du masque dans les transports, surveillé par vidéosurveillance. Il y a plusieurs personnes qui m'ont envoyé des messages sur Twitter et ailleurs en me disant « Oh, regarde Patrick, ça y est, vidéosurveillance !» Alors, bon, évidemment, dès qu'on parle de vidéosurveillance, vous savez qu'il faut être prudent et je pense qu'on en a beaucoup parlé dans l'émission. Sur ce sujet spécifiquement, moi, je suis pas très, très inquiet parce qu'en ayant lu les détails de la chose, il s'avère que c'est pas de la surveillance pour, enfin, vous en doutez, hein, mais c'est pas surveiller qui porte un masque et qui n'en porte pas. C'est pas que vous allez recevoir un mail d'Emmanuel Macron qui va vous dire « Monsieur Béja, je constate que le 14 février, vous n'avez pas porté de masque dans le métro ligne 12 entre machin ». Non, c'est pas ça. L'idée, c'est que par vidéosurveillance, on va analyser les proportions de personnes qui portent des masques dans différentes zones et en différentes périodes dans les transports publics. Et c'est une donnée qui est importante, je pense, pour la stratégie sanitaire d'un pays. Donc, il y a tout un tas de garde-fous qui sont établis. On ne peut pas avoir des tranches de moins de 20 minutes. On ne peut pas avoir de la subdivision par zone géographique trop limitée pour ne pas avoir des identifications trop spécifiques, etc. Donc, non, moi, ça ne m'inquiète pas vraiment. Est-ce que il faudrait, Marion, que je sois plus inquiet que ça, ou sur ce coup-là, on est quand même sur un sujet qui est plutôt bénéfique?
Je suis d'accord avec toi. Là-dessus, l'article décrit bien que c'est en effet pour avoir plutôt des données statistiques sur l'adoption du masque ou pas. Maintenant, je m'interroge un petit peu sur la capacité de détecter le masque sur les différentes couleurs de peau, les différents types de masques, ceux qui sont transparents, ceux qui sont... qui ont des formes, enfin moi je vois des formes un peu étranges dans la rue.
Et,
oui, il y en avait un qui ressemblait à une visière transparente avec une forme un peu bizarre. Enfin, et du coup, je me demande, pareil, tu vois, la capacité de reconnaître un masque foncé sur une peau foncée, on sait un petit peu les déboires qu'on peut trouver dans ce genre d'outils qui ne fonctionnent pas très bien parce qu'ils incorporent des biais. Est-ce que justement là, on ne va pas se retrouver avec des mauvaises statistiques sur une partie de la population justement parce qu'il y a des biais? Je ne sais pas.
Oui, bon, c'est sûr qu'il faudra avoir il faudrait être assez strict sur le taux de certitude des outils de ce type. J'imagine qu'ils prennent ça en compte aujourd'hui. C'est des gens qui savent ce qu'ils font, j'espère en tout cas.
Tu dirais que la police, que les forces de l'ordre prennent ça en compte? Il y a déjà eu des grosses surprises quand même sur ce même sujet.
Non, bien sûr, mais j'imagine que les gens qui développent ces algorithmes, c'est pas Jean-Paul de la gendarmerie du 17e, tu vois. Je pense que les gens qui développent des algorithmes de reconnaissance de masque, de visage avec ou sans masque, j'ose espérer qu'ils font appel à des spécialistes de la chose, mais peut-être que c'est pas
oui,
le cas.
Oui, mais justement, on a bien vu que ces algorithmes qui sont entraînés à la reconnaissance faciale sont bourrés de biais parce que sont développés par une certaine frange de la population qui n'est pas diverse.
Non, bien sûr. Non, c'est pas qu'ils sont développés par une certaine frange, c'est qu'ils sont entraînés sur des sets de données qui n'incluent pas assez de diversité, oui. Effectivement. Non, mais tout à fait. Mais je connais pas le sujet spécifiquement, mais j'ose espérer que le fait de détecter un masque est moins problématique à l'état de développement de la technologie aujourd'hui. Savoir si oui ou non on a un masque, c'est plus facile que de reconnaître une personne dans une base de données de millions de personnes, tu vois.
Oui.
Je pense qu'on a un taux de confiance de est-ce que cette personne porte un masque ou pas, quelle que soit sa couleur de peau ou Peut-être qu'il y aura des erreurs sur certaines couleurs de masque, hein, c'est sûr. Mais je pense que le taux de confiance, est-ce que la personne porte un masque ou pas, sera suffisamment élevé pour avoir des données utiles. Je me trompe peut-être, mais c'est ce que j'imagine. Tiens, un autre truc. Il y a une certaine quantité de députés qui voudraient afficher l'impact des sites de streaming, de la vidéo de streaming, l'impact CO2 du streaming. Et là, autant pour la reconnaissance des masques, je pense que ça peut avoir une certaine utilité statistique parce qu'on a besoin de données pour savoir comment évolue la situation. Autant sur ce point-là, je suis un petit peu plus circonspect. Il y a une idée qui est séduisante, qui est celle de dire, au minimum, si vous regardez une vidéo en 720p, par exemple, plutôt que 1080p, vous réduisez de temps vos émissions de CO2. Et franchement, sur votre petit écran, vous n'avez pas besoin de regarder en HD. Donc, ça va, 720p, ça suffit. Ce qui est une idée intéressante, mais en même temps, encore une fois, je dirais, est-ce que c'est vraiment là que sont... Dieu sait qu'il y a des problèmes dans la tech. Et je ne suis pas du tout là pour diminuer les problèmes de la tech. Et même si on va dire on veut favoriser la vente de smartphones d'occasion ou ce genre de choses, oui, il y a plein de choses à faire dans ce domaine, en dehors même des questions de problématiques sociétales. Mais le poids des émissions de CO2, de vidéos qui de toute... Alors oui, la vidéo représente 80% du trafic d'Internet. Je suis d'accord. Mais... la plupart de ces centres de données sont souvent principalement en énergie relativement propre. En France, en particulier, on a quand même une énergie décarbonée, pour ne pas dire qu'elle est propre, mais en grande partie décarbonée. J'ai l'impression qu'il y a d'autres choses, si on veut effectivement, même dans la tech, s'attaquer aux problèmes écologiques, il y aurait d'autres choses à faire. Et puis en plus, si on veut parler de problèmes d'écologie, moi j'ai l'impression que la viande ou la fast fashion sont de plus gros problèmes. Mais peut-être que je me trompe là aussi.
Là, pour le coup, je ne vais pas vraiment te contredire.
Bon, écoute, nous disons tous depuis bien longtemps numérique quand on parle de technologie et non pas digital comme les barbares le font. Eh bien, aujourd'hui, ça y est, c'est officiel. La traduction de « digital » en anglais est bien numérique. Nous le savions depuis longtemps, mais aujourd'hui, c'est passé au... C'est l'Académie française qui l'a établi et qui l'a clairement entériné. Donc, voilà. À tous ceux qui iront réécouter les 15 ans d'émission ou les 12 ans d'émission pour trouver les quelques moments où je dis « digital », sachez que ce sont des fake news totales. Je ne l'ai jamais dit, je dis toujours numérique.
Alors là, attends, tu vas les lancer sur la réécoute. C'est pour booster tes écoutes de podcast, en fait, ça. Tu lances un challenge.
Non seulement ça.
Retrouver quand notre Patrick prononce digital au lieu de numérique.
Non seulement ça, mais en plus, une fois qu'ils l'ont retrouvé, ils viennent sur Twitter et me disent oh, « Mais enfin, Patrick, regarde dans l'épisode 94 à la minute 12, tu dis digital. » Et là, je dis... Ah ah!
Plutôt, ils vont en faire un NFT.
Mais exactement, c'est ce que j'allais dire! C'est exactement ce que j'allais dire, Marion. C'est exactement ça. Je vais découper mes épisodes en segments d'une minute et tous les vendre en NFT et ceux-là vaudront extrêmement génial. Cher.
Bon, franchement, moi, je serais prête à acheter un NFT de Patrick.
Mais tu sais, on en parlait quand je décrivais les NFT et je disais, mais le premier épisode d'Azeroth.fr, le rendez-vous tech, c'est encore, tu vois, mais Azeroth.fr, il y en a eu 3 ans,
oh là là.
Ça a disparu. Le premier épisode, imaginez, vous pouvez vous dire, je possède le premier épisode d'Azeroth.fr. Alors, il ne va pas disparaître, hein, moi,
Mais c'est là où, tu vois, je comprends l'engouement autour de ça. Tu vois, moi, par exemple, j'ai un engouement autour des premiers pressages vinyles d'artistes que j'apprécie. Voilà, il y a une artiste qui a lancé son premier album que j'aime beaucoup. Bah, je l'ai pris en précommande. Il était... Alors certes, c'est un bien physique, tu vois.
Bah, c'est
mais
ça,
mais le fait de pouvoir participer, tu vois, de... Ouais, mais par rapport à tes premières émissions, je comprendrais pourquoi des personnes voudraient avoir ça en NFT, par exemple.
On va y venir un jour. On va y venir. dans quelques années encore. C'est encore un peu trop frais, mais peut-être un jour. Vous vous souvenez, hein, tous, quand vous étiez, je ne sais pas, au lycée. En fait, le premier épisode d'Azeroth.fr, ce n'est pas juste quelques octets sur un disque dur. Ce n'est pas juste Dany et moi qui disons « Ah merde, il faudrait que je demande son autorisation à Dany ». Merde, bon, peu importe. Ce n'est pas juste Dany et moi qui disons « Bonjour, je suis Patrick et je suis Daniel et vous êtes sur Azeroth.fr ». Non, ce n'est pas juste ça. Déjà, c'est beaucoup. Mais le premier épisode d'Azeroth.fr, c'est vous au lycée. C'est vous dans votre jeunesse, il y a 15 ans. Où étiez-vous? Que faisiez-vous? C'est ça que vous achetez en achetant un NFT d'Azeroth.fr. Rendez-vous sur azeroth.frnft.com/acheter tout de suite. Pour acheter tout de suite.
En fait, t'as tout de près, quoi. Franchement, là...
Je vous rassure, ce site n'existe pas. Et merde, il faut vite que j'aille l'acheter et que je fasse un NFT de l'URL du site. Bon, allez, un dernier détail et puis on va se quitter. J'ai beaucoup hésité à parler de cette histoire de hack de Server Exchange, qui est un énorme hack. Vous savez, Microsoft édite, enfin, un des outils Microsoft, c'est les Server Exchange, qui, en gros, gèrent toutes les communications de très nombreuses entreprises, de PME, d'entreprises immenses. Et il y a eu un hack extrêmement sévère utilisé pour rentrer par les serveurs Exchange pour avoir accès à tout le réseau de l'entreprise. Et il a été utilisé à peu près partout. On est dans la suite un petit peu de SolarWind. J'hésitais à en parler parce que c'est encore un hack, mais il est tellement gros que je veux juste le mentionner. En gros, ce que je veux mentionner, c'est si vous avez un département IT ou si vous-même vous faites partie d'un département IT, mettez à jour vos serveurs Exchange. Mais vraiment, là pour le coup, j'en parle pas souvent, mais vous auriez dû le faire depuis déjà une ou deux semaines. Hein. Vous auriez dû le faire sans que je vous le rappelle. Mais si vous l'avez pas fait, allez-y tout de suite, là, maintenant. Arrêtez ce que vous êtes en train de faire et vérifiez que votre serveur Exchange et votre infrastructure Exchange est à jour, parce que c'est extrêmement un hack vraiment important et qui est activement exploité. Donc voilà pour le dernier sujet. Je ne rentre pas plus dans les détails, mais je voulais l'évoquer quand même pour dire aux gens que bah, ça existe et que je ne l'ai pas oublié. Merci Marion pour un épisode absolument formidable. J'ai passé un très très bon moment. Et si des auditeurs veulent prolonger un petit peu ce moment, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver sur Internet ?
Me retrouver sur la chaîne YouTube et Twitch Naotech ou Naotech QG. Et vous pouvez me retrouver également sur Twitter au pseudo Aizea Design.
Le lien vers Twitter sera dans les notes de l'émission, évidemment. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Et sur NotePatrick.com, vous avez accès à tout ce que je fais, que ce soit les différents podcasts. Super Laser Punch, dans lequel on couvre le dernier épisode de la série WandaVision et dans lequel on va commencer The Falcon and the Winter Soldier dès la semaine prochaine. Donc, allez vous abonner à Super Laser Punch. Vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter, hein, ne l'oubliez pas celle-là, sur notepatrick.com et plein d'autres choses. Le Discord, où on a une vie communautaire hyper sympathique, et tout le reste, et bien sûr, patreon.com/rdvtech pour soutenir l'émission. Si vous avez des avis sur les premiers NFT que je devrais faire, vous pouvez me le dire sur Patreon, par exemple, ou sur le Discord, on pourrait en discuter. Combien seriez-vous prêt à payer pour Patrick qui dit digital au lieu de numérique ? Vous pouvez aller me le dire sur le Discord, par exemple. Je vous fais de grosses bises à tous et on se retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao! Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'épisode du... Fuck.